Chapitre 9. Hybridité. Distinction entre la stérilité des premiers croisements et celle des hybrides. La stérilité est variable en degré, pas universelle, affectée par la consanguinité rapprochée, supprimée par la domestication. Loi régissant la stérilité des hybrides. La stérilité n'est pas un caractère spécial, mais dépend d'autres différences et n'est pas accumulée par la sélection naturelle. Cause de la stérilité des hybrides et des premiers croisements. Parallélisme entre les effets des changements dans les conditions d'existence et ceux du croisement. Dimorphisme et trimorphisme. La fécondité des variétés croisées et de leurs descendants métis n'est pas universelle. Hybrides et métis comparés indépendamment de leur fécondité. Résumé. Les naturalistes admettent généralement que les croisements entre espèces distinctes ont été frappés spécialement de stérilité pour empêcher qu'elles ne se confondent. Cette opinion, au premier abord, paraît très probable, car les espèces d'un même pays n'auraient guère pu se conserver distinctes si elles eussent été susceptibles de s'entrecroiser librement. Ce sujet a pour nous une grande importance, surtout en ce sens que la stérilité des espèces lors d'un premier croisement et celles de leurs descendants hybrides ne peuvent pas provenir, comme je le démontrerai, de la conservation de degrés successifs et avantageux de stérilité. La stérilité résulte de différences dans le système reproducteur des espèces parentes. On a d'ordinaire, en traitant ce sujet, confondu deux ordres de faits qui présentent des différences fondamentales et qui sont, d'une part, la stérilité de l'espèce à la suite d'un premier croisement et, d'autre part, celles des hybrides qui proviennent de ces croisements. Le système reproducteur des espèces pures est, bien entendu, en parfait état, et cependant, lorsqu'on les entrecroise, elles ne produisent que peu ou point de descendants. D'autre part, les organes reproducteurs des hybrides sont fonctionnellement impuissants, comme le prouve clairement l'état de l'élément mâle, tant chez les plantes que chez les animaux. Bien que les organes eux-mêmes, autant que le microscope permet de le constater, paraissent parfaitement conformés. Dans le premier cas, les deux éléments sexuels qui concourent à former l'embryon sont complets. Dans le second, ils sont ou complètement rudimentaires ou plus ou moins atrophiés. Cette distinction est importante lorsqu'on en vient à considérer la cause de la stérilité qui est commune aux deux cas. On l'a négligée probablement parce que dans l'un et l'autre cas, on regardait la stérilité comme le résultat d'une loi absolue, dont les causes échappaient à notre intelligence. La fécondité des croisements entre variétés, c'est-à-dire entre des formes qu'on sait ou qu'on suppose descendues de parents communs, ainsi que la fécondité entre leurs métisses, est, pour ma théorie, tout aussi importante que la stérilité des espèces. Car il semble résulter de ces deux ordres de phénomènes une distinction bien nette et bien tranché entre les variétés et les espèces. Degré de stérilité. Examinons d'abord la stérilité des croisements entre espèces et celle de leur descendance hybride. Deux observateurs consciencieux, Kohlreuter et Gartner, ont presque voué leur vie à l'étude de ce sujet. Il est impossible de lire les mémoires qu'ils ont consacrées à cette question sans acquérir la conviction profonde que les croisements entre espèces sont, jusqu'à un certain point, frappés de stérilité. Kohlreuter considère cette loi comme universelle, mais cet auteur tranche le nœud de la question car par 10 fois il n'a pas hésité à considérer comme des variétés deux formes parfaitement fécondes entre elles et que la plupart des auteurs regardent comme des espèces distinctes. Gartner admet aussi l'universalité de la loi, mais il conteste la fécondité complète dans les 10 cas cités par Kohlreuter. Mais dans ces cas, comme dans beaucoup d'autres, il est obligé de compter soigneusement les graines pour démontrer qu'il y a bien diminution de fécondité. Il compare toujours le nombre maximum des graines produites par le premier croisement entre deux espèces, ainsi que le maximum produit par leur postérité hybride, avec le nombre moyen que donnent à l'état de nature les espèces parentes pures. Il introduit ainsi, ce me semble, une grave cause d'erreur, car une plante, pour être artificiellement fécondée, doit être soumise à la castration, et ce qui est souvent plus important, doit être enfermée pour empêcher que les insectes ne lui apportent du pollen d'autres plantes. Presque toutes les plantes dont Gärtner s'est servi pour ses expériences étaient en pot et placées dans une chambre de sa maison. Or, il est certain qu'un pareil traitement est souvent nuisible à la fécondité des plantes, car Gärtner indique une vingtaine de plantes qu'il féconda artificiellement avec leur propre pollen, après les avoir châtrées. Il faut exclure les cas comme ceux des légumineuses pour lesquels la manipulation nécessaire est très difficile. Et la moitié de ces plantes subirent une diminution de fécondité. En outre, comme Gärtner a croisé bien des fois certaines formes, telles que le mouron rouge et le mouron bleu, Anagallis arvensis et Anagallis caerulea, que les meilleurs botanistes regardent comme des variétés et qu'il les a trouvées absolument stériles, on peut douter qu'il y ait réellement autant d'espèces stériles lorsqu'on les croise qu'il paraît le supposer. Il est certain, d'une part, que la stérilité des diverses espèces croisées diffère tellement en degrés et offre tant de gradations insensibles, que d'autre part, la fécondité des espèces pures est si aisément affectée par différentes circonstances, qu'il est en pratique fort difficile de dire où finit la fécondité parfaite et où commence la stérilité. On ne saurait, je crois, trouver une meilleure preuve de ce fait que les conclusions diamétralement opposées à l'égard des mêmes espèces auxquelles en sont arrivés les deux observateurs les plus expérimentés qui aient existé, Gaulreuther et Gärtner. Il est aussi fort instructif de comparer, sans entrer dans des détails qui ne sauraient trouver ici la place nécessaire, les preuves présentées par nos meilleurs botanistes sur la question de savoir si certaines formes douteuses sont des espèces ou des variétés, avec les preuves de fécondité apportées par divers horticulteurs qui ont cultivé des hybrides, ou par un même horticulteur après des expériences faites à des époques différentes. On peut démontrer ainsi que ni la stérilité ni la fécondité ne fournissent aucune distinction certaine entre les espèces et les variétés. Les preuves tirées de cette source offrent d'insensibles gradations et donnent lieu au même doute que celles qu'on tire des autres différences de constitution et de conformation. Quant à la stérilité des hybrides dans les générations successives, bien qu'il ait pu en élever quelques-uns en évitant avec grand soin tout croisement avec l'une ou l'autre des deux espèces pures, pendant 6 ou 7 et même dans un cas pendant 10 générations, Gärtner constate expressément que leur fécondité n'augmente jamais, mais qu'au contraire, elle diminue ordinairement tout à coup. On peut remarquer à propos de cette diminution que, lorsqu'une déviation de structure ou de constitution est commune aux deux parents, elle est souvent transmise avec accroissement à leurs descendants. Or, chez les plantes hybrides, les deux éléments sexuels sont déjà affectés à un certain degré. Mais je crois que, dans la plupart de ces cas, la fécondité diminue en vertu d'une cause indépendante, c'est-à-dire les croisements entre des individus très proches parents. J'ai fait tant d'expériences, j'ai réuni un ensemble de faits si considérables, prouvant que d'une part, le croisement occasionnel avec un individu ou une variété distincte augmente la vigueur et la fécondité des descendants, et d'autre part, que les croisements consanguins produisent l'effet inverse. Que je ne saurais douter de l'exactitude de cette conclusion. Les expérimentateurs n'élèvent ordinairement que peu d'hybrides, et comme les deux espèces mères, ainsi que d'autres hybrides alliés, croissent la plupart du temps dans le même jardin, il faut empêcher avec soin l'accès des insectes pendant la floraison. Il en résulte que, dans chaque génération, la fleur d'un hybride est généralement fécondée avec son propre pollen, circonstance qui doit nuire à sa fécondité, déjà amoindrie par le fait de son origine hybride. Une assertion souvent répétée par Gärtner fortifie ma conviction à cet égard. Il affirme que, si on féconde artificiellement les hybrides, même les moins féconds, avec du pollen hybride de la même variété, leur fécondité augmente très visiblement et va toujours en augmentant, malgré les effets défavorables que peuvent exercer les manipulations nécessaires. En procédant aux fécondations artificielles, on prend souvent, par hasard, je le sais par expérience, du pollen des anthères d'une autre fleur que du pollen de la fleur même qu'on veut féconder, de sorte qu'il en résulte un croisement entre deux fleurs, bien qu'elles appartiennent souvent à la même plante. En outre, lorsqu'il s'agit d'expériences compliquées, un observateur aussi soigneux que Gartner a dû soumettre ces hybrides à la castration. De sorte qu'à chaque génération, un croisement a dû sûrement avoir lieu avec du pollen d'une autre fleur, appartenant soit à la même plante, soit à une autre plante, mais toujours de même nature hybride. L'étrange accroissement de fécondité dans les générations successives d'hybrides fécondés artificiellement, contrastant avec ce qui se passe chez ceux qui sont spontanément fécondés, pourrait ainsi s'expliquer, je crois, par le fait que les croisements consanguins sont évités. Passons maintenant aux résultats obtenus par un troisième expérimentateur, non moins habile, le révérend W. Herbert. Il affirme que quelques hybrides sont parfaitement féconds, aussi féconds que les espèces souches pures. Il soutient ses conclusions avec autant de vivacité que Kohlreuter et Gartner, qui considèrent au contraire que la loi générale de la nature est que tout croisement entre espèces distinctes est frappé d'un certain degré de stérilité. Il a expérimenté sur les mêmes espèces que Gartner. On peut, je crois, attribuer la différence dans les résultats obtenus à la grande habileté d'Herbert en horticulture et au fait qu'il avait des serres chaudes à sa disposition. Je citerai un seul exemple pris parmi ses nombreuses et importantes observations. Tous les ovules d'une même gousse de Crinum capense, fécondés par le Crinum revolutum, ont produit chacun une plante, fait que je n'ai jamais vu dans le cas d'une fécondation naturelle. Il y a donc là une fécondité parfaite, ou même plus parfaite qu'à l'ordinaire, dans un premier croisement opéré entre deux espèces distinctes. Ce cas du Crinum m'amène à signaler ce fait singulier qu'on peut facilement féconder des plantes individuelles de certaines espèces de Lobelia, de Verbascum et de Passiflora, avec du pollen provenant d'une espèce distincte, mais pas avec du pollen provenant de la même plante, bien que ce dernier soit parfaitement sain et capable de féconder d'autres plantes et d'autres espèces. Tous les individus des genres Hypeastrum et Corydalis, ainsi que l'a démontré le professeur Hildebrand, tous ceux de diverses orchidées, ainsi que l'ont démontré M. Scott et Fritz Müller, présentent cette même particularité. Il en résulte que certains individus anormaux de quelques espèces et tous les individus d'autres espèces se croisent beaucoup plus facilement qu'ils ne peuvent être fécondés par du pollen provenant du même individu.
Ainsi, une bulbe
d'Hypestrum aulicum
produisit 4 fleurs.
Herbert en féconda 3 avec leur propre pollen, et la 4e fut postérieurement fécondée avec du pollen provenant d'un hybride mixte descendu de 3 espèces distinctes. Voici le résultat de cette expérience. Les ovaires des 3 premières fleurs cessèrent bientôt de se développer et périrent au bout de quelques jours, tandis que la gousse, fécondée par le pollen de l'hybride, poussa vigoureusement, arriva rapidement à maturité et produisit des graines excellentes qui germèrent facilement. Des expériences semblables, faites pendant bien des années par M. Herbert, lui ont toujours donné les mêmes résultats. Ces faits servent à démontrer de quelle cause mystérieuse et insignifiante dépend quelquefois la plus ou moins grande fécondité d'une espèce. Les expériences pratiques des horticulteurs, bien que manquant de précision scientifique, méritent cependant quelque attention. Il est notoire que presque toutes les espèces de Pelargonium, de Fuchsia, de Calceolaria, de Pétunia, de rhododendrons, etc., ont été croisés de 1000 manières. Cependant, beaucoup de ces hybrides produisent régulièrement des graines. Herbert affirme par exemple qu'un hybride de Calceolaria integrifolia et de Calceolaria plantaginea, deux espèces aussi dissemblables qu'il est possible par leurs habitudes générales, s'est reproduit aussi régulièrement que si c'eût été une espèce naturelle des montagnes du Chili. J'ai fait quelques recherches pour déterminer le degré de fécondité de quelques rhododendrons hybrides, provenant des croisements les plus compliqués, et j'ai acquis la conviction que beaucoup d'entre eux sont complètement féconds. M. C. Noble, par exemple, m'apprend qu'il élève pour la greffe un grand nombre d'individus d'un hybride entre le rhododendron ponticum et le rhododendron Catawbiense,
et que cet hybride
donne des graines en aussi grande abondance qu'on peut se l'imaginer. Si la fécondité des hybrides convenablement traités avait toujours été en diminuant de génération en génération, comme le croit Gardner, le fait serait connu des horticulteurs. Ceux-ci cultivent des quantités considérables des mêmes hybrides, et c'est seulement ainsi que les plantes se trouvent placées dans des conditions convenables. L'intervention des insectes permet en effet des croisements faciles entre les différents individus et empêche l'influence nuisible d'une consanguinité trop rapprochée. On peut aisément se convaincre de l'efficacité du concours des insectes en examinant les fleurs des rhododendrons hybrides les plus stériles. Ils ne produisent pas de pollen et cependant les stigmates sont couverts de pollen provenant d'autres fleurs. On a beaucoup moins d'expériences précises sur les animaux que sur les plantes. Si l'on peut se fier à nos classifications systématiques, c'est-à-dire si les genres zoologiques sont aussi distincts les uns des autres que le sont les genres botaniques, nous pouvons conclure des faits constatés que, chez les animaux, des individus plus éloignés les uns des autres dans l'échelle naturelle peuvent se croiser plus facilement que cela n'a lieu chez les végétaux. Mais les hybrides qui proviennent de ces croisements sont, je crois, plus stériles. Il faut cependant prendre en considération le fait que peu d'animaux reproduisent volontiers en captivité et que, par conséquent, il n'y a eu que peu d'expériences faites dans de bonnes conditions. Le serin, par exemple, a été croisé avec 9 espèces distinctes de moineaux. Mais comme aucune de ces espèces ne se reproduit en captivité, nous n'avons pas lieu de nous attendre à ce que le premier croisement entre elles et le serin, ou entre leurs hybrides, soit parfaitement fécond. Quant à la fécondité des générations successives des animaux hybrides les plus féconds, je ne connais pas de cas où l'on ait élevé à la fois 2 familles d'hybrides provenant de parents différents, de manière à éviter les effets nuisibles des croisements consanguins. On a, au contraire, habituellement croisé ensemble les frères et les sœurs à chaque génération successive, malgré les avis constants de tous les éleveurs. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que, dans ces conditions, la stérilité inhérente aux hybrides ait été toujours en augmentant. Bien que je ne connaisse aucun cas bien authentique d'animaux hybrides parfaitement féconds, j'ai des raisons pour croire que les hybrides du Cervulus vaginalis et du Cervulus rugvesii, ainsi que ceux du Phasianus colchicus et du Phasianus torquatus, sont parfaitement féconds. M. de Quatrefage constate qu'on a pu observer à Paris la fécondité intercé pendant 8 générations des hybrides provenant de 2 phalènes, Bombyx cynthia et Bombyx arindia. On a récemment affirmé que 2 espèces aussi distinctes que le lièvre et le lapin, lorsqu'on réussit à les apparier, donnent des produits qui sont très féconds lorsqu'on les croise avec une des espèces parentes. Les hybrides entre lois communes et lois chinoises, Anagallis cygnoides, 2 espèces assez différentes pour qu'on les range ordinairement dans des genres distincts, se sont souvent reproduits dans ce pays avec l'une ou l'autre des souches pures, et dans un seul cas, intercé. Ce résultat a été obtenu par M. Hayton, qui éleva 2 hybrides provenant des mêmes parents, mais de pontes différentes. Ces 2 oiseaux ne lui donnèrent pas moins de 8 hybrides en une seule couvée, hybrides qui se trouvaient être les petits-enfants des oies pures. Ces oies de race croisées doivent être très fécondes dans l'Inde, car 2 juges irrécusables en pareille matière, M. Bliss et le capitaine Hutton, m'apprennent qu'on élève dans diverses parties de ce pays des troupeaux entiers de ces oies hybrides. Or, comme on les élève pour en tirer profit, là où aucune des espèces parentes pures ne se rencontre, il faut bien que leur fécondité soit parfaite. Nos diverses races d'animaux domestiques croisés sont tout à fait fécondes, et cependant, dans bien des cas, elles descendent de 2 ou de plusieurs espèces sauvages. Nous devons conclure de ce fait soit que les espèces parentes primitives ont produit tout d'abord des hybrides parfaitement féconds, soit que ces derniers le sont devenus sous l'influence de la domestication. Cette dernière alternative, énoncée pour la première fois par Pallas, paraît la plus probable et ne peut guère même être mise en doute. Il est, par exemple, presque certain que nos chiens descendent de plusieurs souches sauvages. Cependant, tous sont parfaitement féconds, les uns avec les autres, quelques chiens domestiques indigènes de l'Amérique du Sud exceptés, peut-être. Mais l'analogie me porte à penser que les différentes espèces primitives ne se sont pas tout d'abord croisées librement et n'ont pas produit des hybrides parfaitement féconds. Toutefois, j'ai récemment acquis la preuve décisive de la complète fécondité intersée des hybrides provenant du croisement du bétail à bosse de l'Inde avec notre bétail ordinaire. Cependant, les importantes différences ostéologiques constatées par Hüttemeyer entre les deux formes, ainsi que les différences dans les mœurs, la voix, la constitution, etc., constatées par M. Bliss, sont de nature à les faire considérer comme des espèces absolument distinctes. On peut appliquer les mêmes remarques aux deux races principales du cochon. Nous devons donc renoncer à croire à la stérilité absolue des espèces croisées, ou il faut considérer cette stérilité chez les animaux, non pas comme un caractère indélébile, mais comme un caractère que la domestication peut effacer. En résumé, si l'on considère l'ensemble des faits bien constatés relatifs à l'entrecroisement des plantes et des animaux, on peut conclure qu'une certaine stérilité relative se manifeste très généralement soit chez les premiers croisements, soit chez les hybrides, mais que dans l'état actuel de nos connaissances, cette stérilité ne peut pas être considérée comme absolue et universelle.